Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets et leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur les thématiques diverses qui les concernent. Et aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous allons parler anniversaire. Et oui, après avoir déjà parlé à ce micro l'année dernière des 50 ans de la première grande loi handicap de 1975, on y reviendra, ou encore les 20 ans du texte cadre mettant en avant l'inclusivité au centre du handicap, un autre anniversaire est à célébrer, celui du Claude Uni qui fête cette année ses 70 ans. 70 ans d'histoire, d'engagement et d'accompagnement en Lozère, une aventure humaine commencée en 1955 dans un contexte où le regard porté sur les personnes en situation de handicap était bien différent d'aujourd'hui. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir plusieurs invités. Le docteur Jacques Blanc, ancien député, sénateur et président de la région Languedoc-Roussillon et actuellement président de l'association. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Et je salue tous ceux qui nous écoutent. C'est important pour nous que ce Claude Uni a lancé la Béosiol il y a 70 ans, en transformant une association de vacances en association pour accueillir les personnes en position de handicap, qu'on a eu la chance en Lozère d'avoir ces initiatives et qui ont permis d'accueillir depuis un grand nombre de résidents qui ont trouvé, je l'espère, au Claude Uni les meilleures chances d'épanouissement.
Justement, merci pour ces premiers mots et on aura le temps d'y revenir sur toute cette histoire. Également autour de la table, Patrick Julien, directeur général du Claude Uni. Bonjour Monsieur Julien.
Bonjour Thomas.
Et puis avec moi, deux mémoires vives du Claude Uni sont avec nous pour raconter cette aventure. Tout d'abord, Henri Baumgartner, l'un des plus anciens travailleurs du Claude Uni, parti à la retraite il y a tout juste un mois. Bonjour Henri.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, impeccable.
Et puis on peut vous souhaiter une bonne retraite depuis
un
mois.
Ah oui, maintenant je me repose.
Bon, on va y revenir sur vous qui avez connu depuis de nombreuses années le Claude Uni. Ouais. Et puis également Christine, arrivée au Claude Uni en 1986. Vous aussi, vous êtes maintenant à la retraite. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine Sauret qui est avec nous et qui va pouvoir nous raconter toutes ses expériences.
Oui. Je suis rentrée le 9 juin 80. D'abord, c'était à Sainte-Angèle. En 2075, j'avais 15 ans, 12 ans. Après, je suis partie, j'avais papa Francis à Chile, qui est venu me chercher en voiture avec sa dodoche, avec sa dodoche orange.
Lui, il était psychologue et sa mère était la sage-femme à la maternité qui existait à l'époque à Marvejotte.
Oui.
C'est elle qui m'a accouché.
Ah ouais. Et donc, et puis... Et donc, Achille est venu me chercher avec sa dodoche orange pour venir visiter le foyer de la Cologne. Et j'ai connu Madame Solzag. C'était la première directrice qui m'avait accueillie. Et ensuite, je suis repartie après à Chirac. Et après, c'était Nicole Grignon qui est venue me chercher pour venir visiter le foyer de la Cologne. Et c'est là que je suis rentrée le 9 juin 86. Et je me rappelle toujours, parce que j'avais travaillé dans les ateliers bois, après, ensuite au ménage, et puis après en cuisine, en 2003. C'est là qu'après, je suis partie... Je fais du théâtre.
Et Christine, ne nous en raconte pas trop, parce qu'on va te poser plein de questions après. Et d'accord ?
Il faut dire que c'était des premiers CAT à l'époque en France.
Et oui, tout ça, on va y revenir.
CAT de la Cologne.
Dans l'émission, effectivement, vous avez commencé à nous parler de votre parcours, Christine, qui est passionnant. Et puis, je finis le tour de table. On vient de t'entendre, Anne, justement, reprendre la parole à Christine. Toujours à mes côtés, Anne Clémence, chargée de communication au Claude Uni. Bonjour, Anne.
Bonjour, bonjour à tous. Et effectivement, Christine et Henri vont nous raconter beaucoup, beaucoup de choses sur les débuts du Claude Uni. Et bien sûr, on a la mémoire avec le docteur Blanc, qui était là aussi depuis longtemps.
J'étais là avant vous, comme médecin.
Voilà, donc on va avoir une très longue émission sur les 70 ans du Claude Uni.
Et avant justement de revenir sur cette histoire, peut-être quelques chiffres qui donnent la mesure du chemin parcouru. Aujourd'hui, le Clos du Nid, ce sont près de 900 professionnels et plus de 1000 places autorisées et environ 1500 personnes accompagnées chaque année en Lozère. Mais avant de partir en 1955, j'aimerais vous poser une question très simple à vous quatre ou vous cinq. En un mot, pour vous, qu'est-ce que représente le Clos du Nid ? Peut-être docteur Blance.
Le Clos du Nid, c'est la réponse à des situations qui étaient des situations qui paraissaient sans aucune issue. Et le Clos du Nid a permis de créer une véritable dynamique et, je peux dire, la vocation d'accueil sanitaire et social de la Lozère. D'autres initiatives ont permis aussi, par exemple, il y avait trois abbés à l'époque qui ont bien marqué. On a parlé donc de l'abbé Auziol, qui est le fondateur du Clos du Nid, et qui a été soutenu par l'abbé Vialet à Langogne et le chanoine Almeras à Villefort. Et ces trois curés ont permis de développer cette vocation qui a d'abord répondu à des situations qui étaient des situations... Vous savez, moi, j'ai eu le privilège, en tant que médecin à l'époque, je suis toujours médecin, même si je n'exerce pas, mais j'étais neuropsychiatre, et j'ai accueilli donc les familles, et en particulier les jeunes, à Saint-Germain-du-Theil. Et c'était des situations désespérées. Et le Clos du Nid a apporté une réponse et a su évoluer, mais ça, on le verra au cours des 70 ans.
Et peut-être également pour vous, Patrick Julien, en un mot, le Clos du Nid.
Le président Blanc l'a dit, le Clos du Nid, c'est la solution de ceux qui n'en ont pas. Mmh. Et je crois que ce qui est une des caractéristiques qui est la ligne directrice du Clos du Nid depuis 1955-1956, c'est en réalité de ne pas sélectionner les personnes. On prend des personnes qui sont en situation complexe, d'autres en situation beaucoup plus favorable, mais on ne fait pas de tri, et ça, c'est l'honneur, et c'est le chemin.
Peut-être ici, pour vous deux, s'il y avait un mot pour parler du Clos du Nid, ça serait quoi pour vous ?
Pour le Clos du Nid, ça a changé, parce qu'avant, c'était le CAT de la Cologne.
Alors, pour toi, ça serait le travail, ça serait le CAT. Parce qu'effectivement, en fait, le Clos du Nid était composé de plusieurs associations. Bon, ça c'est juridique avant de devenir le Clos du Nid. Mais pour toi, ça serait le CAT de la Cologne et le travail. Et pour vous, Henri,
le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez...
Pareil, j'aimais le boulot, le Clos du Nid aussi, beaucoup. Je connaissais les monitrices, les moniteurs, j'étais beaucoup attaché. Après, quand il fallait partir à travailler ailleurs, ce n'était pas évident.
Justement, c'est bien que vous commencez à parler, vous deux, du travail, vu qu'on va y revenir justement de l'importance de l'intégration à la société par le travail et le travail fourni par le Clos du Nid dans cette direction. Peut-être on va commencer la première partie de cette émission où je me dis que sur les débuts, mais pour comprendre le Clos du Nid, il faut d'abord donc comprendre le monde dans lequel il est né. L'association a officiellement été enregistrée à la préfecture le 16 décembre 1955. C'est aussi pour ça qu'on se permet de fêter l'anniversaire en 56, puisque en 55, il a eu seulement à peine deux semaines d'existence, cette association.
C'était la transformation de l'association pour les vacances dont s'occupait l'abbé à Marvejol. C'était sa mission. Mmh. Et donc... il a, sous l'influence de Toscaliès, qui était psychiatre à Saint-Alban et qui avait, on y reviendra peut-être, les enfants de Saint-Nicolas. Mais donc, si vous voulez, il y a eu cette volonté de l'abbé de modifier les statuts pour accueillir les jeunes et puis les moins jeunes en situation de handicap.
Et c'est pour ça que... Effectivement, le statut de l'association a changé cette année-là. Donc nous sommes en 55 encore dans l'après-guerre. Hein. Une question peut-être pour vous, Patrick, Julien, et je m'adresse autant au directeur qu'à l'historien de formation. Dans quel contexte se trouvaient les personnes en situation de handicap en France à cette époque ?
Quand Toscaliès arrive du camp de concentration de Sept-Fonds en 1940 et qu'il est recruté par Bonafé, le psychiatre en chef de Saint-Alban, on est en octobre 40 et le régime de Vichy s'est installé. Et ce régime de Vichy a, c'est pas l'insulter que de le dire, a pour objectif de collaborer avec les Allemands qui ont des théories raciales d'abord, racistes, et des théories eugénistes. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 36-37 avec la volonté, c'est ça le contexte, hein, la volonté d'exterminer les personnes en situation de handicap, car jugées inutiles ou jugées, comment dirais-je, dégradant la race allemande et la race européenne. Et c'est dans ce contexte-là que pendant la guerre, les rations alimentaires dans les hôpitaux psychiatriques ont été particulièrement basses, beaucoup plus basses que dans la population générale. Et c'est par réaction à cet eugénisme que Bonafé, d'une part, et Tosquelles, d'autre part, avec tous les personnels soignants, avec les paysans du coin, se sont organisés pour que les personnes en situation de handicap et les personnes atteintes de maladies mentales, à l'époque elles étaient mélangées, on verra que c'est l'apport de Tosquelles de les avoir distinguées, c'est de leur apprendre à ramasser des champignons et surtout d'utiliser cette main d'œuvre dans les campagnes alentours, à Saint-Alban, à Serverette, au Malzieu, et de se faire payer en pommes de terre, en poireaux, en choux, et de faire aussi de travail. Et grâce à ces deux médecins, Bonafé et Tosquelles, il n'y a pas eu de mort de faim dans cet hôpital psychiatrique, alors que dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques français, la mortalité a été particulièrement élevée. Et on peut dire que l'administration de Vichy a laissé faire ça et n'a rien fait pour sauver ces malades. Voilà.
Ça, c'est jusqu'en...
Ça, c'est le contexte eugéniste. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc... voilà.
Mais en 55, on parle toujours des aliénés. On est déjà en train de.
On parle des débiles et on parle des débiles profonds et des minces. Mmh. Et l'apport de Tosquelles, c'est de dire les personnes en situation de handicap peuvent avoir des retards, de développement, etc. Mais ils n'ont rien à faire. C'est sa thèse, et c'est la thèse d'autres, psychiatres en France. Hein. Il n'était pas le seul, mais ça a été... c'est de dire que les personnes en situation de handicap n'ont rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Mmh. Ils n'ont pas de maladie mentale. Et donc, ils doivent être à l'extérieur. Et c'est cette philosophie qu'on poursuit, et c'est cet anti-eugénisme que, finalement, on soutient. Nous refusons profondément toute tendance dans la société qui irait vers la sélection des individus pour être mieux, pour être plus ceci ou moins cela. Et le Claude Uni, c'est profondément une aventure anti-eugéniste.
Peut-être justement un mot, Jacques Blanc, vous qui étiez dans les années 60, d'abord étudiant en médecine, puis neuropsychiatre, un mot justement sur cet état des lieux et la prise en charge des personnes en situation de handicap à cette époque, quand vous débutez.
J'avais fait le diplôme de neuropsychiatre, qui n'existe plus, hein, parce que maintenant, il y a les neurologues et les psychiatres. C'est peut-être une erreur, mais enfin, bon. Et je m'étais orienté vers ce secteur avec une volonté, d'abord, de préparer. Il y avait aussi la création du Centre d'éducation motrice de Montrodin. Et j'avais fait ma thèse sur l'avenir des infirmes moteurs cérébraux. Mais en 66... Tosquelles partant, l'abbé Ozior est venu me voir en me demandant de succéder non pas à Tosquelles parce que c'était pas du tout, c'était très difficile et je n'étais pas à ce niveau-là, mais de prendre en charge le secteur neuropsychiatre, de neuropsychiatrie, avec un médecin militaire, le docteur Politure, qui était présent à temps complet, lui, à Grèzes. Dans des locaux d'ailleurs qui étaient les locaux de la direction à l'époque, qui étaient les locaux du centre médical pour l'ensemble du Claude Uni, hein, l'armée à côté. Et je dois dire que l'abbé Ozior a su nous convaincre de prendre en charge ce secteur. Il faut dire qu'en France, jusqu'à la période jusque la loi de 50, faut bien dire, jusqu'à la loi de 75, mais avec un rapport qui avait été fait par Bloch, l'aîné, quelques temps avant, on commençait à prendre conscience du problème posé par les personnes en position de handicap, mais on n'avait pas les réponses. Et donc, le mérite de l'abbé Auziol, c'est d'avoir su d'emblée se mobiliser, convaincre d'une part les préfets qui se sont succédés et qui ont beaucoup soutenu le Code du Nid pendant très très longtemps, et les caisses de protection sociale des armées, et avec des responsables de ces caisses qui ont été des artisans importants de l'avancée du Code du Nid, avec des personnalités comme l'intendant général Macbeck, Monsieur Lab, qui était le patron de la caisse, d'un directeur de la Mutuelle de l'Air, et qui a été président du Code du Nid pendant de très nombreuses années, et vraiment d'autres responsables. Donc, si vous voulez, le mérite de l'abbé, c'est d'avoir su convaincre et permettre de concrétiser les réponses. Et il est même allé au-delà, puisqu'il est parti aux États-Unis, qu'il a su créer des liens avec la famille Kennedy, avec, je crois, un aumônier de la famille Kennedy aux États-Unis. Et il a créé donc un mouvement qui dépassait la seule Lozère pour donner à la France, quand même, une voie nouvelle de prise en charge des personnes en position de handicap.
Donc là, on est sur le début. On a effectivement commencé à parler de noms qui vont revenir, hein. L'abbé Auziol, François Toscaïès. Justement, peut-être, monsieur Julien, François Toscaïès, on l'a dit, vous l'avez dit, l'une de ses théories, c'est de se dire toutes les populations ne sont pas faites pour être en asile. C'est le père d'une manière de voir... Enfin, il a un peu révolutionné son secteur.
Alors, à l'époque, avec Bonafé, effectivement, qui est un des grands... Oui, tout à fait. Et c'est un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle qui, au fond, essaie d'utiliser la psychanalyse à des fins psychiatriques, d'une part. Et donc, il s'est très influencé par la psychanalyse. Et d'autre part, alors, il y a l'idée de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap doivent sortir, tomber les murs, et au sens propre figuré,
tomber les murs de l'asile.
En 1947, le secteur fermé avec les cellules, hein, ce n'était pas des chambres, hein, c'était des cellules, il prend les masses et c'est les malades psychiatriques qui font tomber les murs. Et troisième élément, c'est d'essayer de soigner l'institution aussi. Il y a une idée de faire participer les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ont de la maladie mentale. Et puis, en même temps, participer aussi les salariés dans une sorte d'utopie permanente, hein, où il faut dire quand même, si on veut être vraiment, quand on discute avec les gens, c'est Toscaïès qui était le leader, quoi. Donc ça fonctionnait, cette autogestion, parce qu'il y avait un chef, quoi. C'est pas vraiment contradictoire, mais c'était lui qui était l'âme intellectuelle et managériale.
Qui prenait en charge la formation des personnels. Oui, puisque à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas... Il y avait l'internat psychiatrique à Saint-Alban, hein, mais il y avait peu de formation autre. Et donc Toscaïès a créé là aussi une dynamique au sein du Code du Nid pour former les personnels qui étaient recrutés sans qu'ils aient de spécialisation ou de formation avant. Mais je crois que justement la force de Toscaïès a été ça, de mobiliser les énergies et créer là aussi une capacité de répondre à ce besoin de formation.
Rajouter, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le président, mais rajouter qu'il a eu aussi l'intuition, et l'abbé Auziol a suivi, que puisqu'ils n'avaient plus leur place dans l'hôpital psychiatrique, il fallait quand même leur trouver des occupations, d'abord en termes occupationnels, et puis ensuite même pour vivre, de prise en charge pour vivre, et donc c'est là qu'il crée qui crée à l'hôpital psychiatrique, mais aussi dans les institutions, des activités qui d'abord sont occupationnelles et qui ensuite deviennent de véritables, un véritable travail pour gagner.
Eux, c'est des travailleurs.
Et ils ont gagné leur vie, et donc c'était l'idée, c'est qu'il fallait que, voilà, ils participaient aussi aux 30 Glorieuses et à la reconstruction du pays en travaillant. C'est ça l'idée un peu géniale, quoi. Alors qu'à l'époque, il fallait des travailleurs qui étaient forts, etc., qui avaient pas de... Alors, l'idée des CAT, qui va s'incarner après dans la loi de 75, c'est ça, c'est de dire il y a peut-être un handicap, mais il faut l'accompagner pour permettre à ces personnes de s'intégrer dans la société par le travail. Et ça, c'est une intuition assez géniale, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas fait. Par exemple, la Suède, qu'on cite un exemple, pendant longtemps, ça a été de l'assistanat, et ça n'a pas été la dignité par le travail. Et alors que dans le système français, le système de la loi de 75 et de la loi et des préfigurations de Tosqueliès et d'Auziol, c'est ils vont gagner leur pain comme tme monde.
La meilleure démonstration, ce sont...
Et oui, justement, on va vous donner la parole à vous
c'est
deux.
C'est les deux,
Christine,
qui sont la meilleure démonstration de cette voie de réussite dans le travail jusqu'à la retraite. Et maintenant, de bonnes retraites.
sur ces beaux mots de Monsieur Jacques Blanc, peut-être, oui, effectivement, Henri ou Christine, avant de parler de votre travail, peut-être, Henri, vous êtes arrivé, vous, en 1969, au Clos du Nid.
Ouais.
Vous avez un premier souvenir. On a un peu expliqué comment était le contexte dans les années 50, début 60. Vous, en 69, c'est quoi vos premiers souvenirs du Clos du Nid ?
Rappeler tout, j'étais bien, par contre, et après on avait commencé l'école et tout, avec un moniteur, on était suivi.
À Grèze ?
Ah ouais, à Grèze.
Oui, parce que Grèze était le...
Voilà, donc Grèze, voilà, c'était le berceau du Clos du Nid, donc...
Avec
Saint-Germain-du-Teil, un tout petit peu plus tard, légèrement plus tard, mais Grèze était le berceau du Clos du Nid. Donc, Henri, vous êtes arrivé en 1969 à Grèze.
Ouais, ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ça a été quoi vos premiers souvenirs de Grèze ? D'aller à l'école ?
Après, l'école après, j'ai attiré sur un groupe qu'il y avait Marité à Lanche. C'est elle qui m'a élevé.
Alors... Vous êtes arrivé sur un groupe où l'éducatrice s'appelait Marie-Thérèse Alanche.
Ouais.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce groupe ?
On m'a accueilli là parce que je n'avais pas de logement ni rien.
Oui, vous êtes arrivé parce que vous avez été ce qu'on appelait à l'époque, vous avez été placé.
Voilà.
Parce que vous n'aviez plus trop de famille pour s'occuper de vous. Donc, vous êtes arrivé là, placé en Lozère. Donc, vous arrivez à Grèze. Et vous parliez tout à l'heure que vous alliez vous promener. Qu'est-ce que vous faisiez ?
On faisait la balade avec les moniteurs, les monitrices. On allait faire le tour du pavillon. Il y avait un chemin, on y allait là, souvent.
Voilà.
À Grèze.
Donc, au début, c'était très occupationnel, comme tous les enfants. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous étiez petit, Henri, vous aviez 7 ans à peu près.
Je crois, mais tu...
Voilà. Et du coup, c'était comme tous les enfants, on vous occupait à des jeux, à des promenades. Voilà. Et puis après, vous avez été à l'école.
Voilà. Et du coup, après, on est allé, chaque fois, c'était l'heure pour aller chercher les gamelles. Le moniteur ou une monitrice, il faisait la liste. Quelle personne y allait, quelle personne.
Ah, vous aviez des petites missions, voilà. Comme tous les enfants, quoi. La cantine, quand il faut aller débarrasser ou chercher le plat ou chercher les assiettes. Donc, vous aviez des petites missions pour aller chercher les gamelles.
Voilà, mais il ne faut pas se tromper de groupe.
Ah, c'était compliqué, c'était un peu compliqué. Oui.
Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai dit qu'aujourd'hui, le Clos du Nid s'occupait en tout de plus de 1000 personnes. Vous, à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde à Grèze.
Oh, c'était plein.
Il y avait déjà du monde.
Ouais.
600 personnes déjà sur Grèze. Hein. Il y a eu jusqu'à 600 personnes sur Grèze.
Alors ça a été très vite, parce que c'est vrai qu'en 1955, on a commencé par les fameux trois enfants de Saint-Nicolas. Oui. Hein, la jolie histoire veut que, du coup, à la veillée de Noël, Tosqueliès est amené à l'abbé Auziol ses trois premiers enfants. Et déjà, un an après, l'abbé Auziol dit dans son livre qu'ils étaient déjà presque 200, qu'un an après. Donc j'imagine qu'effectivement, quand Henri est arrivé en 1969, Patrick Julien dit 600, mais c'est possible que déjà sur le site de Grèze, ils étaient 500-600, puisque c'est allé très vite, puisque c'était finalement, comme dit le président, c'était la première réponse qui existait. Mais en fait, voilà, ça a été très vite parce que ça a été vraiment la première réponse en France qui était apportée au grand handicap. Avec les caisses
militaires. Et donc, peut-être une question, ça veut dire qu'au début, c'était que des enfants, monsieur Jacques Blanc ?
Ça a commencé par les enfants.
Oui.
Et puis ça a suivi parce que les enfants ont grandi.
Et oui.
La preuve, il est devenu travailleur.
Ah oui.
De Grèze, vous êtes parti.
À Pailleré après.
À Pailleré. Avec le...
À Pailleré, je suis allé pour apprendre des métiers.
Avec le secteur agricole aussi.
Ouais, ouais.
Il y avait des moutons.
Ouais, oui. Et il y avait même des vaches.
Et même des vaches, oui. Et il y avait une famille directeur.
Ferrand ? Non, c'est...
Non, avant.
Ah, il s'appelle. C'est mon frère, il vous le direz, vous.
Ah, oui. Monsieur Astruc.
Monsieur Astruc, voilà, ah. Monsieur et Madame Astruc. Ah, ouais. Et moi, j'ai été médecin là-haut,
oui, oui.
J'avais vu tout le monde.
Vous dormez là-haut aussi.
Ah oui, oui.
Allez, les souvenirs, effectivement, de ces
là,
premières
années. Là, ça remonte.
C'est la démonstration d'un cheminement.
Oui.
D'abord, l'école.
Ouais.
Ensuite... Un peu, maintenant on appelle ça l'IM Pro.
Oui,
hein. L'IM Pro, mais donc c'est la préparation.
Ouais.
Et ensuite, c'est le CAT.
Oui.
C'est, à l'époque, c'était CAT.
C'est le parcours que vous avez eu.
Oui, oui.
Vous avez travaillé longtemps au CAT, vous?
Oui, oui. D'abord, j'ai commencé à Pailleré.
Oui.
Pailleré, la Valette et la Cologne. Le CAT de la Cologne.
Mais à Pailleré, ce que vous disiez, c'est que c'était comme un IM Pro, c'est-à-dire...
Après, ça se finit. Après,
ça se finissait. Et à l'IM Pro, vous avez appris plusieurs métiers. Donc, vous disiez, voilà. vous alliez à la carrière pour la taille de pierre. Hein.
Oui, oui, je l'avais fait.
Voilà, puis vous avez fait d'autres ateliers encore. Hein.
Mais après, je connaissais des engins, après.
Voilà, vous avez appris à conduire des engins.
Pour décharger un camion, on m'a tout appris... Même je connaissais avant le tractopelle qui était à la carrière. On m'apprenait.
Même un tractopelle.
D'accord, donc on vous a appris tout ça. Et une fois que vous avez appris tout ça, comme vous saviez bien travailler, vous êtes parti au CAT.
Non, d'abord on faisait, quand je suis monté à Pailleré, on faisait des métiers, on allait construire ailleurs. On tombait chez les cultés pour monter un mur.
Vous alliez chez les particuliers,
oui,
voilà.
Oui,
oui. Oui. Comme encore aujourd'hui, hein, ce qui se fait encore aujourd'hui.
Je suis capable de le faire, hein, tu sais.
Ah, mais je n'en doute pas.
Mais en plus, c'était du très très beau travail hein, qui était fait avec les carrières.
Mmh.
Il y avait même eu un moment, mais ça c'était au CAT, le travail du marbre.
Ah ouais.
Hein, des tables de marbre avec le marbre qui venait de Saint-Enémy.
Et donc, on va continuer. Donc, on l'a dit, hein, je vais un peu reprendre tout ce qui a été dit. Le Clos du Nid, vous m'arrêtez si je dis de bêtises, mais le Clos du Nid va grandir petit à petit. L'accueil des enfants va évoluer. Eux, ils vont grandir. Et c'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle ambition va naître, donner aux enfants une place dans la société, une fois qu'ils deviendront plutôt adultes, une place par le travail. C'est dès 62 hein, que le Clos du Nid crée l'un des tout premiers, on dit encore ESAT.
CAT. On disait CAT à l'époque et c'est devenu ESAT.
C'est ça, je vous ai montré CAT. C'est
le nom qui a changé.
Oui.
C'est le nom qui a changé, mais le fond est resté le même.
Donc ça montre peut-être, Patrick Julien ou Jacques Blanc, qu'il y avait déjà une. Voilà, la Lozère était déjà pionnière et avec l'abbé Auziol sur ce cadre-là, dès 62.
Ben, à l'époque, on ne parlait pas d'inclusion, on parlait d'intégration dans la société. C'est un peu la même chose, il y a quelques subtilités, mais l'idée, c'est effectivement que la personne en situation de handicap doit être dans une position la plus proche possible de la situation ordinaire. Et on a toujours été un peu en avance par rapport à la société, même si on n'en a pas, par rapport aux autres associations, je veux dire nationales, même si on n'en a pas eu toujours conscience. Par exemple, les premières... installation de personnes en situation de handicap dans des studios en ville, c'est 1975. Et en même temps, on met en place la mixité. Henri pourrait nous en parler. Et donc, en même temps, on met en place aussi le suivi des de la première parentalité. Voilà, je me souviens du couple, le premier couple qui a été suivi par le Claude Uni, on est en 1975-1976. Bien avant que d'autres associations nous parlent aujourd'hui d'inclusion, etc. Donc, on avait cette avance parce que, comme l'a dit le président tout à l'heure, on a progressé en marchant. On a commencé par les enfants, puis on s'est dit il faut les scolariser. Puis après, on s'est dit, il faut les former. Puis après, il faut les faire travailler. Puis après, on s'est posé en 1980 la question des retraités avec Madame Schoedzeig qui a créé Saint-Élion, qui est une maison de retraite au fond. Hein. C'était ça. Hein. Vous l'avez connu. Donc voilà, on a fait en avançant. On s'est pas posé ça n'a pas été trop dans la théorie, même si on a fait beaucoup d'expérimentations. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a essayé de régler les problèmes. Et c'est ça, notre inclusion, l'inclusion que le président appelle l'inclusion raisonnée.
Oui, parce que l'essentiel, c'était quand même de répondre en apportant le maximum de chances de bonheur. Et vous l'avez vécu. Vous.
Effectivement, Christine, oui. Tout à l'heure, Henri nous a parlé un peu de ce qu'il faisait au travail, comment il a étudié, en tout cas, voilà, il y a une formation, le travail. Vous, ça s'est passé comment aussi en 86?
Au travail, d'abord, je suis travaillé dans le... CAT de la Cologne, au bois. Après, bon, j'ai fait du ménage. Des palettes, un peu de tout. Des cagettes.
Travail de bois.
Travail de bois. Et puis après, je suis passée au ménage. Et c'est là qu'après, je suis partie faire du théâtre. Hein, c'est me permis de faire du théâtre. Ça m'a fait du bien. Et puis aussi, en 2003, je suis partie. Passer en cuisine au foyer de la Cologne.
Ça fait plein de métiers différents.
Oui, mais justement.
Et c'est là que j'ai connu l'abbé Audiol, parce qu'on a ramené son plateau. Il nous appelait à chaque fois au téléphone pour dire vous nous emmenez le plateau.
Pour manger.
Parce
quand il était en Lozère. Il logeait là.
Oui, il logeait à la Cologne, au château.
Voilà.
C'était l'une des questions que j'avais justement à poser à vous toutes là. On va passer après à une autre partie, mais pour terminer, donc l'abbé Audiol qui est aux fondations de l'association, vous l'avez tous connu, il est décédé en 2004. Oui. Il était comment quand justement vous le rencontrez c'était un monsieur comment?
Eh bien, c'était l'abbé Audiol, mais on l'a pas vu, nous. Mais on l'a vu au
téléphone.
Au téléphone.
Mais moi, je l'ai vu beaucoup.
Ah oui, j'imagine.
Alors, il n'était pas facile, hein. Attention.
Non, parce que des fois, il nous dit pas besoin de plateau.
Il avait ses instructions.
Il avait ses instructions.
Il râlait. Il fallait que ce soit un homme de caractère pour faire ce qu'il a fait, de toute façon.
Il râlait, puis il râlait quand on voulait plus qu'il conduise, parce qu'il accrochait un peu de temps en temps.
Oui, et comme il reculait, parce qu'il avait un truc rond vers à la Cologne, il reculait
dans le mur de temps en temps. Mais il avait l'audace de faire, de ne pas s'enfermer dans l'idéologie, mais de concrétiser de façon très précise. Et son cas est tout à fait intéressant, parce que la volonté du Clos, c'est d'offrir une capacité aussi de trouver des postes de travail variables.
Oui.
Qu'on n'enferme pas dans un seul poste, hein, mais qu'on puisse répondre à l'envie de changer, de passer du bois à la cuisine ou au ménage, par exemple.
J'ai fait atelier bois,
oui.
Ménage.
Oui.
En 2003, je suis rentrée en cuisine en 2003.
Voilà, donc ça, c'est vraiment une signature du Clos. Mmh. Ne pas s'enfermer dans un seul poste, mais offrir des postes variés avec une possibilité aussi de travail à l'extérieur, éventuel. Ça, c'est le cas dans les carrières. Hein.
Ouais.
Hein, vous aviez aussi des postes de travail ou carrière ou bois. Ou activités moins élaborées.
Mais des fois, l'atelier ne tournait pas. Des fois, on était partagé dans chaque personne d'atelier.
Les ateliers, oui.
Moi, j'ai une question pour vous deux, Henri et Christine. Mais Henri, vu que c'est vous qui avez le micro, est-ce que ça vous rendait heureux d'aller travailler, d'avoir des collègues, oui. d'avoir une vie comme tout le monde?
Ah oui, je parlais, moi. J'arrêtais pas, là.
Non, mais en plus, il y avait la vie à côté du travail. Oui. Le travail a été l'élément dominant, mais il y a eu ensuite le mariage. Et quand même, c'était un événement important.
Ah oui.
Et il y a eu ainsi tout un mouvement d'ouverture de vie, d'hébergement dans des logements pas forcément collectifs, hein, même s'il y avait un suivi, hein, puisque vous êtes allé dans des logements.
Oui, oui, je suis passé déjà et après on m'a mis au service extérieur.
Ah, voilà.
Voilà. Ah, ouais.
Hein, oui. Voilà.
Mais avant d'aller en ville, j'étais à Crosse-Vieil, au foyer jeunes travailleurs.
Oui, le foyer des jeunes travailleurs qui avait été repris par l'abbé, hein, et où il y avait pas mal de travailleurs de pailleré, hein, qui ensuite sont venus.
Avant, c'était, il n'y avait pas pailleré avant. Avant, il n'y avait pas.
Il y avait exclusivement les.
C'était Harvey qui s'occupait du foyer, c'était le chef, lui. Les gens, ils venaient dormir là-haut.
Oui.
Et le matin, ils repartaient pour aller au boulot.
C'était une intégration parce que le foyer des jeunes travailleurs, il n'y avait pas que des personnes en situation de handicap, il y avait des travailleurs. C'était les gens qui travaillaient sur les chantiers de route, par exemple, etc. Donc c'était on était déjà. C'était à quelle période là? C'était dans quelle année?
Je ne me rappelle plus.
C'était les années 70, 1970, 1980, hein, c'est ça. Voilà.
Peut-être une question avant, après on va poursuivre pour parler notamment de l'année charnière de 75, mais une question la même que j'ai posée à Henri, pour vous Christine, ça vous rendait heureuse d'aller travailler, d'avoir des collègues, une vie comme on disait de monsieur tout le monde, madame tout le monde, entre le travail mais aussi tout ce qui est à côté, la vie de famille
Oui, c'était heureux, c'était contente de travailler, et puis bon, j'ai fait des amis, c'était... très contente. Et puis aussi, bon, là, quand je suis arrivée à Cologne, j'ai fait d'abord la Cologne. Et ensuite, j'ai demandé faire un des stages en ville. Et après, c'est là que je suis... j'ai resté en ville depuis très longtemps. Et...
En ville, dans Marvejol.
Oui, dans Marvejol. Et là, je suis bien parce que là, je suis pas loin du CAT, du foyer de la Cologne. Parce que ça me change beaucoup. Puis je suis bien. Puis j'ai un chat. Puis bon, je m'occupe. Je vais à Saint-Élie et puis à Tom. Et je suis bien.
Ouais, c'est la vie, quoi.
Oui, c'est la vie.
Et oui, peut-être Anne.
Non, je disais en plus l'originalité de quand vous parliez président de la diversité des parcours. Le parcours de Christine est vraiment très particulier puisqu'elle a eu l'opportunité, elle, pendant quelques années, de partir faire du théâtre professionnel sur Millau. Voilà. Donc ça aussi, c'était assez novateur à l'époque parce que on était quoi dans les années 2000. 90, 2000
2003.
2000, voilà. 2000, donc ça voulait dire que Christine, qui était travailleuse au sein du CAT, hein, puisqu'on parlait de CAT à l'époque, avait des temps aménagés pour pouvoir aller faire du théâtre de façon professionnelle dans une groupe de théâtre de Millau, et elle a même fait des représentations un petit peu partout en Europe. Hein.
Oui, j'ai fait... J'étais en Allemagne, en Suisse, à l'étranger, dans les pays étrangers, en Berlin, tout ça. Wow. Même à Mende aussi, on a fait... Non, mais...
autant à domicile qu'à l'extérieur.
Et puis aussi à Marozol, on a joué Suliki, parce que c'était Suliki. Après, j'ai fait Suliki, Un enfant sans nom.
C'est les différentes pièces.
C'est le nom des pièces, ça.
Oui. Et aussi, J'ai fait une pièce de théâtre, pas parler, sans parole.
Muette.
Et c'était une fois.
Je crois que le grand mérite du Clos, c'est ce parcours, oui. mais aussi l'accueil de personnes avec un handicap beaucoup plus lourd et qui ont nécessité d'ailleurs la création des masses, des maisons d'accueil spécialisées. Donc si vous voulez, moi j'attache une importance tout à fait essentielle. Il faut permettre ce parcours. Or certains parleront d'intégration, nous on parle d'intégration positive. Hein. Bon. Mais l'essentiel c'est que il y a des perspectives qui sont ouvertes, mais qu'on ne laisse pas tomber les plus grands handicapés qui sont, eux, accueillis dans les masses de Saint-Germain, de Chirac, ou des handicaps très lourds, ne permettent pas d'avoir de telles perspectives, mais nous obligent, nous, à pouvoir inventer des réponses adaptées au degré d'handicap.
Et ça, justement, j'en parlais dans mon introduction, c'est 1975, hein, l'année charnière, la fameuse loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Donc, on a la chance de vous avoir avec nous, docteur Jacques Blanc. Vous avez été le rapporteur de cette loi, dont l'expérience du Clos d'Uny a servi de base au rapport présenté à l'Assemblée nationale. Et justement, ma question, c'est qu'est-ce qui a changé concrètement? Mais vous venez de le dire, notamment, l'un des grands changements, c'est la création, justement, de ces masses.
C'est oui, parce qu'il n'existait pas d'établissement capable de répondre à des situations où s'associer à un handicap mental et un handicap moteur, très lourd, très 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 lourd. Et donc, moi j'avais été marqué, puisque j'avais accueilli les familles pendant longtemps, quand j'étais le médecin au Clos, et donc il fallait absolument inventer cette réponse. Il fallait aussi concrétiser, et c'est le mérite de la loi, concrétiser la réalité des CAT, qui sont devenus des ESAT, mais qui ont été reconnus comme et les travailleurs de ces CAT, ESAT, reconnus comme des travailleurs à part entière, hein, avec donc aussi un salaire minimum garanti, hein, avec donc une participation de l'État pour cela, et une reconnaissance réelle de la dignité, de l'ouverture au sport, de l'ouverture au vote, de l'ouverture générale. Une reconnaissance forte dans cette loi qui a été quand même un élément majeur pour les évolutions futures et qui a été d'ailleurs concrétisée dans la loi ensuite de 2020.
Hein, oui, c'est de 2005.
De 2005,
dans la loi de 2005. Mais la loi de 75, au-delà de créer les CAT et les MAS, bon, qu'elle crée concrètement, ça a complètement structuré le milieu médico-social. Puisqu'on l'a vu, c'était né quand même d'initiatives intuitives. C'est-à-dire, c'est un AB par-ci, un AB par-là qui se débrouille avec les moyens qu'ils ont de faire ce qu'ils peuvent, des formations par le docteur Tosquelliès, voilà. Mais vous, vraiment, vous avez contribué en étant rapporteur de cette loi et avec cette loi, à vraiment structurer les choses de façon plus officielle, on va dire.
Et à mieux reconnaître aussi le rôle de toutes les associations, avec la création du conseil consultatif, hein, où sont représentées les grandes associations, qui sont donc des interlocuteurs de l'État et, ou des moteurs pour avancer. Mais c'est donc il y a aussi tout le volet de l'éducation spéciale qui a été créé à ce moment-là avec l'allocation. Et l'allocation aux adultes handicapés.
Oui.
Et donc, si vous voulez, c'est tout un champ, une structuration d'une reconnaissance des droits et des devoirs, je dis bien, des personnes en position de handicap, une capacité d'apporter des réponses concrètes et précises depuis la prévention. Et j'ai eu la chance d'avoir le docteur Salbreux, qui était un médecin parisien, spécialisé dans les problèmes de prévention. Prévention avec tout le côté de néonatalité, etc., qui font que, d'ailleurs qu'il y a eu vraiment des résultats très positifs dans le domaine de la prévention. Donc c'était une vision tout à fait globale,
prenant en compte la réalité de la dignité de toute personne en position de handicap.
Justement, peut-être Patrick, Julien, vous aussi, forcément, pour vous, cette année-là, elle est charnière. Et qu'est-ce qu'elle a changé au Clos du Nid, tout ce qui a découlé de cette année 75?
Ça a déjà été dit, c'est-à-dire que l'État, à travers la loi, reconnaissait finalement les missions de service public qui avaient été confiées un peu avant-guerre et surtout après la guerre aux associations. Car il y a une particularité française, c'est que le champ du handicap est à 95-99% investi par des associations à but non lucratif. Des associations, alors soit des associations comme Clos du Nid, soit des associations de parents, et qui ont eu les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'on a eu au fur et à mesure, d'abord les enfants, puis après l'éducation, etc. Et la loi de 75, effectivement, ça a été dit, structure ça, lui donne une véritable colonne vertébrale, et a vraiment une importance qu'aujourd'hui on minore un peu trop à mon goût, parce que finalement c'est le socle sur lequel... parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a voulu cette loi, président.
Le premier centre équivalent des masses, à Bosse, oui. En juillet 1974, premier voyage officiel du président de la République. Et présence venue ici, à Nozère, à Bosse, de Madame Veil, était la ministre à ce moment-là, et de René Lenoir, qui était le grand spécialiste de l'exclusion.
Donc ça montre l'importance apportée à l'handicap.
Et donc Valéry Giscard d'Estaing, qui a une vision de la société moderne, qui veut faire évoluer la société, alors c'est les lois Veil sur l'avortement, mais c'est aussi les lois de 75 sur le handicap, et comme l'a dit le président, avec notamment la création des cotorep, la création de l'allocation adulte handicapé, qui prend le handicap dans toute sa complexité. Et on ne devrait pas dire handicap au singulier, oui. On devrait dire handicap au pluriel, je pense, parce que vous avez le handicap physique, vous avez le handicap mental, vous avez toute une série, une palette et des degrés divers. Vous avez des manifestations qui peuvent être génétiques, etc. Enfin, toute une... Et c'est la puissance, enfin, la force de cette loi, c'est d'avoir pris en compte tout ce spectre, finalement, l'éducatif, le travail, le logement et la possibilité de vivre aussi à l'extérieur d'institutions, puisque l'allocation d'adultes handicapés permet cela.
Et c'est aussi cette période-là qui me semble qui voit arriver un peu la professionnalisation du métier, du secteur, avec la création, par exemple, du statut d'éducateur spécialisé, ce genre de choses.
Oui, de moniteur-éducateur. Et en Lozère, il faut bien dire que... à l'initiative de plusieurs, mais dont le Clos du Nid au sein de l'UNAPH, a été créée l'école de moniteurs éducateurs, qui est quand même une réponse forte pour répondre aux besoins désormais de formation plus importante. Et je tiens ici à me réjouir de voir que notre directeur général, n'est-ce pas, Patrick Julien, qui est là, vient d'être élu président du conseil d'administration de cette école. Je ne doute pas qu'il impulsera une dimension supplémentaire et qui a été d'ailleurs pris en charge au niveau régional, il faut bien le dire, financièrement, puisque c'est la compétence régionale. Mais pour la Lozère, c'est important, avec parallèlement aussi les formations de l'école d'infirmières à Mende. C'est depuis l'école d'infirmières, c'est monsieur le directeur doit le savoir. Monsieur Julien, l'école d'infirmières, c'était quand? Je crois que j'étais déjà député. Non, mais l'école d'infirmières qui forme pour des infirmières, mais aussi pour des métiers de soignants, ouais. Et l'école de moniteurs-éducateurs qui forme aussi pour des moniteurs-éducateurs, pour des éducateurs spécialisés et aussi pour des aides-soignants. Donc, si vous voulez, le Clos du Nid a été, je crois, moteur dans toutes ces avancées.
Et moi, j'ai une question pour vous, Henri et Christine, mais elle est peut-être compliquée, c'est peut-être moi qui va mal la formuler, j'essaye quand même. On vient de dire que justement, il y a eu des lois qui ont fait qu'autour de vous, les personnes qui vous accompagnaient étaient de mieux en mieux formées, alors qu'au début, c'était de l'initiative un peu personnelle, voilà, on a essayé de faire comme on pouvait. Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre carrière que autour de vous, entre guillemets, les gens vous connaissaient de mieux en mieux, c'était de mieux en mieux encadré?
Oui, parce que bon, c'est de Elle avait deux éducateurs qui m'ont suivi jusqu'à la Cologne, à Tom et à Saint-Ily. Là, une personne que j'aime bien parce qu'elle est partie à la retraite. Hein. Et il reste une personne, j'aime bien, et puis bon, on s'entend bien, et puis bon, on fait à Saint-Ily, puis à Tom, on fait plein de choses, on fait des activités, on fait de la vidéo, du cinéma, un peu tout.
Mais donc la relation avec les gens qui vous accompagnent, j'imagine, elle est forte et elle est importante.
Oui.
Peut-être aussi une question pour vous, Henri. En plus, si vous êtes à votre gauche, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et c'était un peu l'une de vos demandes, c'est de dire je ne fais pas la radio sans la personne à ma gauche. Ça veut dire
elle a participé tout avec. J'étais avec elle était là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Hein.
Votre prénom
Armel Becca.
Avec Armel. Donc ça montre aussi que pour vous, les gens qui vous ont toujours accompagné autour, c'est des gens importants dans votre vie.
Il y a une famille qui vous a quand même beaucoup apporté. Oui. C'est la famille Vessier.
Oui.
Du Fromental. Du Fromental. Pas de Trébattu. Du Fromental, n'est-ce pas? Oui. Famille formidable. Ouais. Qui ont été pour vous une véritable famille.
Oui, c'était ma famille. Ils m'ont élevé. Ils m'ont appris à travailler. Et mon patron me dit, allez, monte sur le tracteur, tu connais le tracteur. Je n'étais pas aux trois pommes et encore, je n'arrivais pas aux pédales.
Et par exemple, Armel, elle vous a aidé dans quoi
Pas mal de trucs.
Oui, par exemple.
Acheter des habits. Mm-hmm. On sortait, on faisait sortir parce qu'on n'a fait que Marojol. On allait partout, oui.
C'est vraiment quelqu'un qui est avec vous et qui vous conseille, avec qui vous discutez de la vie.
Voilà, ouais.
Donc ça fait du bien.
Ouais. Je ne regretterai pas, peut-être.
Et donc voilà, donc on l'a dit, c'est l'un des apports de cette loi cadre de 75, notamment voilà, cette professionnalisation du secteur et des gens qui vont accompagner les personnes au Clos du Nid. Peut-être on va arriver doucement sur la fin de l'émission, mais parler d'une autre loi importante, notre année 2005, une nouvelle loi qui vient prolonger celle de 75, la loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Vous, monsieur docteur Jacques Blanc, comment cette loi, elle complète celle de 75? Est-ce que...
Elle met en œuvre, en fait.
Elle met en œuvre.
Elle met en œuvre des principes qui avaient été votés dans le texte. J'ai suivi cette loi aussi, puisque c'est mon ami Paul Blanc, qui était le sénateur des Pyrénées-Orientales, qui était venu d'ailleurs voir ici, visiter. Hein. Et donc, oui, mais c'est Paul Blanc. Et elle a ouvert, par contre, davantage sur la compensation, créant d'ailleurs cette allocation nouvelle permettant d'adapter des situations, de répondre aux besoins financiers pour adapter des situations permettant de travailler dans des ateliers ou ailleurs, ou dans la vie quotidienne.
Ou des aides humaines auprès des familles, par exemple. Ça a été important.
Donc ça a concrétisé ce qui avait été mis dans le texte de la loi de 75.
Donc, dans ce cadre, les lois des personnes ont progressivement évolué, plus de mixité, vie en ville, vie en couple, autonomie. Patrick Julien, comment justement le Clos du Nid a intégré ces évolutions? Mais on a l'impression que le Clos du Nid, lui, n'a pas attendu 2005 pour tout ça.
Le Clos du Nid, c'est une évolution permanente. Je parlais de la dépsychiatrisation, c'est-à-dire l'ouverture de la psychiatrie voulue par Tosquelles et Auziol. Dans les années 70, le travail sur l'inclusion. Et puis, à partir de 2010-2014, on a poursuivi, approfondi ce travail sur l'autonomie de la personne, sur l'individualisation. Et on a aussi modifié profondément nos prises en charge, notamment dans le cadre de la prise en charge des troubles du neurodéveloppement et du trouble, des troubles autistiques dans le cadre des progrès des neurosciences, dont parlait le président en introduction. Et on a adopté des méthodes qu'on appelle cognitivo-comportementales ou comportementalistes qui permettent de réduire autant que faire se peut le recours aux neuroleptiques ou à certains médicaments et de travailler sur les habituations, sur les habiletés sociales, de façon à ce que la personne puisse s'intégrer le plus facilement, s'inclure le plus facilement possible dans la société. Et on obtient des résultats, notamment avec les très grands handicapés autistes très sévères à Chirac. Je voudrais souligner le travail de l'équipe extraordinaire qui est fait à Chirac avec des autistes très très difficiles qui n'y avaient plus de vie sociale, qui ne dormaient plus, qui ne pouvaient plus retourner en famille parce qu'ils étaient violents, etc. Et qu'on est arrivé à stabiliser grâce à l'unité de régionale de TSA qui a été accordée par le ministère. Voilà. Et c'est ça, cette évolution permanente, le Claude Uni, avec un travail aujourd'hui qui est le plus difficile sur l'autonomie et sur l'autodétermination des personnes.
Je crois qu'on a aussi anticipé sur, si vous voulez, à un moment donné, dans le monde psychiatrique ou médico-social, on ne pensait que à la psychanalyse. Et on considérait que c'était la clé de la réponse à tout. Il y a eu d'ailleurs des mouvements importants de parents qui se sont mobilisés. Et peut-être d'ailleurs c'est allé dans un sens excessif. Mais c'était une réalité. Et au Clos, je crois qu'on avait su prendre les évolutions, anticiper sur ces évolutions, pour créer des dynamiques de prise en charge type Montessori, permettant donc de donner une place plus grande aux personnes en position de handicap dans les choix pour leur propre vie.
Puis si on en revient proprement à la loi de 2005 et au fait que on accélère le fait que la personne handicapée devienne un citoyen à part entière, là encore, avec Henri et Christine, on en a la preuve parfaite, puisqu'on a, je parle d'Henri par exemple, qui a passé son permis de conduire, qui conduit, qui vide.
Il n'accroche pas, lui.
Il n'accroche pas, comme l'abbé Osiol qui reculait dans les murs. On a Henri qui vit dans un logement en ville. Et puis, on a dans ce studio ici Roberta qui a tenu à l'accompagner, Roberte, pardon, qui a tenu à l'accompagner, qui est son épouse. Donc, Henri, il a eu une vie
tout à fait,
pleine et entière de citoyenne. Alors, Christine aussi, mais Henri, pleinement citoyen à part entière. Hein. Vous nous parliez de votre mariage tout à l'heure.
Oui. Du coup, on sait pourquoi on s'est marié, parce que du coup. Comme Robert allait partir, c'est pour ça qu'on s'est marié. J'ai 20 ans, on a vécu 20 ans, et après on a fait le mariage.
Ah
j'ai
oui,
demandé
donc.
Sa main.
Voilà. Donc en tout, ça fait combien. Vous êtes marié à combien de temps? 15 ans, c'est ça on a
dit 15 ans.
Donc 15 ans plus 20, ça fait 35 ans de ouais. vie.
Il n'y a pas des couples qui tiennent comme ça.
Ah non, non.
Ah non, c'est pas.
Non, pas tous les couples. C'est bien dit, Henri. On va arriver doucement donc, sur la conclusion, mais là, on l'a dit, les évolutions, je vais rappeler les chiffres. Maintenant, c'est près de 900 professionnels de la santé, environ 1500 personnes accompagnées chaque année en Lozère. Patrick Julien, pour doucement arriver sur la fin de cette émission, ça fait maintenant plus d'une heure qu'on discute. Si vous deviez résumer en une phrase l'héritage de Toscaïès et l'abbé Osiol aujourd'hui, ça serait quoi cet héritage?
Toscaïès, c'est le décloisonnement. C'est décloisonné et je crois qu'on en continue, on essaie de décloisonner. Et Osiol, c'est le refus de l'eugénisme et le concept de dignité. C'est-à-dire que nous pensons, et c'est dans notre statut, qu'il n'y a pas de petite vie, qu'il n'y a pas de petites existences et qu'il n'y a pas d'existence inutile et que la dignité, elle est intrinsèque dans chaque homme et dans chaque femme, quelle que soit sa situation.
Et moi, je rajouterais que c'est également, alors l'innovation, même si aujourd'hui on en parle beaucoup, mais je parlerai aussi d'audace, c'est-à-dire que ça a été toujours de oser. Oser aller de l'avant, oser essayer des choses, oser trouver des solutions. Il fallait en avoir de l'audace pour accueillir 3 gamins à Grèze alors qu'il n'y avait rien, qui sortait de l'Asie, dont on ne savait pas comment s'y prendre. Donc il fallait vraiment de l'audace. Il a fallu de l'audace plus tard pour penser à la mixité dans les années 60, alors que tout était totalement cloisonné. Il a fallu beaucoup d'audace pour créer un CAT, je veux dire, faire travailler. C'était la première fois qu'on faisait travailler. Il a fallu tout le temps de l'audace, et jusqu'à aujourd'hui où ben, il a fallu de l'audace pour, il y a quelques années, que Sylvie Coudert, à la masse d'Entraigue, tente des choses pour pouvoir accueillir des autistes en situation très complexe. Et ce qui nous a valu la création d'une unité résidentielle TSA, dont il n'y en a que 4 aujourd'hui en Occitanie. Donc je dirais que c'est cette audace aussi qui caractérise vraiment le Claude Uni.
Avec une capacité d'adaptation.
Oui, audace, adaptation.
On en parle donc de cette nouvelle établissement, une nouvelle approche par rapport au cas complexe d'autisme. Mais il y a aussi la maison des sources, hein, qui a été une réponse à des besoins pour des aidants ou des situations compliquées.
C'est de l'accueil temporaire et
de l'accueil
temporaire et d'urgence, la maison des sources.
Voilà. Et l'adaptation des masses. Avec une recherche permanente d'offrir des chances de rupture de la monotonie. On est en train de terminer le chantier d'un grand complexe aquatique. Piscine, on dira, mais piscine, au lieu d'adapter au handicap, pour offrir à ceux qui ne peuvent pas espérer pouvoir avoir une autonomie de vie, pour offrir une chance d'épanouissement dans nos masses. Donc, si vous voulez, le Claude Uni, c'est adaptation permanente, pragmatisme et respect des personnes.
On va justement parler, on va terminer par, c'est ça, la vision du futur, qu'est-ce qui va, parce que là, ça fait 70 ans, mais il y a encore 70 ans d'histoire devant le Claude Uni, j'en doute pas, mais restez avec vous, Jacques Blanc. Moi, j'avais une question, là, sur le regard de... En arrière, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans cette histoire, dans cette aventure du Claude Uni ?
Le plus heureux, c'est d'avoir eu l'expérience de médecin du Claude Uni. Ce qui m'a permis d'être législateur.
Oui.
La loi de 75 doit beaucoup au Claude Uni. Et ça, j'en suis fier.
Et aussi peut-être une question pour vous, Henri ou Christine, peut-être la même question sur de quoi vous êtes fier dans votre parcours, mais aussi peut-être une question sur vous avez fait le parcours depuis l'enfance. Il y a toujours des adolescents qui rentrent au Claude Uni formés. On avait fait une émission avec l'IME Pro. S'il fallait leur donner un conseil, vous maintenant qui partez à la retraite, qui êtes à la retraite, un petit mot à donner à un petit jeune, une petite jeune qui arriverait au Claude Uni à 12-13 ans aujourd'hui.
Eh bien, moi, je laisse la place aux jeunes d'abord. Parce que ça fera un an et demi que je suis à la retraite. J'ai fait un stage où j'ai travaillé au Pôle-Bois, après la Valette, et puis après j'ai fini ma beauté au IME au Sapin.
Et justement, quand tu travaillais en cuisine à l'IME des Sapins, qu'est-ce que tu leur disais aux jeunes ? Quel conseil tu pouvais leur donner ?
Mais j'ai pas eu trop le temps de leur parler parce que j'ai travaillé.
Ah oui, bah oui, on travaille, on n'a pas le temps.
Voilà, ben forcément.
Travailler, puis bon, les quistos de IME sont contents de moi.
Oh. De quoi tu as été le plus fier de ton parcours, toi ?
Moi, mon parcours, c'était de cette angèle jusqu'à...
Mais de quoi tu es le plus contente ? Quelle est la période où tu es le plus contente ?
Mais bon, le parcours de que je suis très contente, que je suis heureuse et être mieux à la retraite, et puis c'était bien.
La meilleure période, c'est la retraite, c'est bien dit. Vous, Henri, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez beaucoup au travail, donc moi, ma question, si à ma place, c'était un petit jeune qui aurait peut-être un peu peur en disant « j'arrive où, je débarque où », ce serait quoi le conseil que vous pourriez lui donner ?
Au début, j'avais un peu peur, Et du coup, on a travaillé dans chaque atelier. Le matin, des fois, je travaillais dans l'autre atelier et j'ai changé. Mmh. On faisait plusieurs métiers.
Et aux jeunes, vous leur diriez quoi?
Oui. Des fois, ils venaient nous voir, tu sais, ils visitaient les ateliers. Mmh. Du coup, on a fait montrer ce qu'on faisait comme boulot.
Vous leur montrez le boulot.
Ah oui, c'est vrai qu'à l'IME, il y a des stages d'immersion maintenant au sein, du CAT, donc au sein de l'ESAT, pardon. Donc, quand les jeunes de l'IME passaient sur votre atelier, vous leur montriez, oui, vous les rassuriez.
Oui.
C'était de la transmission, voilà, de génération en génération. Mmh. Mmh. Très bien. Et peut-être, on va y revenir peut-être avec toi, Anne. On parlait d'audace. Pour parler un peu des... On va se tourner vers demain. Comment ça va arriver dans les années à venir? Moi, je pense... Je me souviens d'une émission avec la fondation Andy Blum où on parlait d'IA. Ça montre qu'il y a de l'audace. On dit le Claude Uni a toujours été pionnier. Ça continue.
Et ça continue. C'est vrai que je parlais de l'unité de cas complexes. On est seulement 4 sur la région Occitanie. On a été les premiers aussi à introduire la méthode Montessori dans les établissements et notamment les masses, ce qui n'avait jamais été fait. Et nul doute que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'on est venu ici parler d'IA et là c'est l'établissement de Châteauneuf-de-Randon, les Genêts, qui sont vraiment précurseurs dans ce domaine, puisque c'est eux qui sont très avancés pour mettre en place au travers de l'IA un système pour tout ce qui est prévention des comportements problèmes, avec l'école des mines, et que nous soutenons pleinement. Mais là, c'est vrai que les jeunes sont très d'avance sur ça. L'innovation, c'est aussi dans les ateliers. Hein. Aujourd'hui, quand on visite le pôle bois, toute la technicité qu'on voit au niveau des ateliers, le dernier robot qui est arrivé pour transporter les palettes, il n'était pas au début, ce robot, la construction de la nouvelle blanchisserie. Voilà, donc c'est tout ça aussi, c'est toute cette marche en avant dans la technicité aussi. Il n'y était pas le robot, Henri, quand vous êtes arrivé?
Non, on le faisait à la main.
Vous faisiez tout à la main, voilà.
Oui, mais enfin, ils étaient en bas.
Oui, mais d'abord, on était à Pailleret, on avait reçu une machine, et c'est moi avec Christian qui l'a rentré avec l'engin pour mettre dedans la machine.
Voilà. Donc c'est tout ça aussi, c'est l'innovation aussi dans les postes de travail, l'amélioration des postes de travail. Aujourd'hui, quand on rentre au pôle bois, il y a toujours un effet waouh aux personnes que l'on fait visiter, parce que c'est franchement une usine comme toutes les autres, voire même avec une technicité encore plus importante que les autres. Et nous sommes en train de refaire la blanchisserie, effectivement, toute l'activité blanchisserie qui était actuellement sur 2 sites et qu'on rassemble sur un même site, où il va y avoir, là encore, une technicité avec tout un tunnel de lavage qui est très, très moderne et à la pointe de la technologie. Donc c'est aussi ça, les travailleurs aujourd'hui, leur handicap n'enlève pas le fait qu'ils travaillent dans un milieu et un environnement totalement actuel.
Ouais, et technique. Les projets ne manquent pas. Patrick Julien, justement, cette innovation au service de l'humain, c'est ce qui va également être la ligne de conduite pour les 70 prochaines années du Claude Uni.
Exactement. L'innovation, alors ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, oui. Hein. C'est l'innovation pour résoudre des problèmes concrets. C'est ce qui frappe, hein, quand on prend un peu de recul, hein, sur l'histoire du Claude Uni, c'est ça. On a un problème, on essaie de trouver une solution, ou bien l'innovation est la suite logique de ce qu'on doit faire, parce que les choses se présentent comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de prendre aussi des temps de réflexion, de conceptualisation. On est dans l'action, mais il faut aussi de temps en temps prendre un peu de recul. Et ce genre d'émission, moi j'ai accepté de venir pour prendre ce recul. Je voudrais quand même rajouter une chose aussi, c'est que ce dont on peut être fier, c'est bien sûr le travail, ce qui est dit là, du bonheur de nos résidents, de nos travailleurs, mais c'est aussi peut-être aussi la technicité et le professionnalisme de nos salariés. Et un élément où on est un peu novateur aussi, c'est le système social du Clos d'Uny, qui est quand même très avantageux pour les salariés et qui n'a cessé d'évoluer de façon positive. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est la reconnaissance du travail accompli. Les conseils d'administration et le président Blanc, le premier, toujours soutenu ce maintien de ce progrès social et cette continuation. Et c'est important hein, parce que l'accompagnement ne se fait pas tout seul.
On vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Effectivement, c'est aussi un cadre pour vous, j'imagine, pour échanger auprès des auditeurs, auditrices qui peut-être n'ont pas l'occasion de tourner autour du Clos d'Uny comme vous et connaître tous les problématiques. Je vais conclure, mais avant ça, peut-être, Anne, les festivités ne s'arrêtent pas à cette émission. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les prochains rendez-vous pour justement fêter ces 70
Alors,
ans.
Effectivement, on va avoir une année, une rentrée, puisqu'on est à la rentrée là, une rentrée très chargée, puisque nous avons plusieurs événements. Alors, le 1er octobre, on organise une journée autour de l'autisme avec la venue du professeur Roger, qui est psychologue reconnu internationalement autour de l'autisme, et du docteur Étienne Pau, qui est le délégué interministériel à l'autisme. Donc ça se passera à Chirac, donc toute une journée autour de l'autisme sur comprendre, transformer, mieux accompagner les parcours autour de l'autisme. On se retrouvera le 19 novembre pour une journée autour du travail, où là c'est le Jean-François Dufresne, qui est président de l'association Vivre et Travailler Autrement, et ancien PDG d'Andros, qui viendra nous exposer le modèle qu'il a construit justement au sein des usines Andros pour pouvoir accueillir sur les chaînes de production des travailleurs en situation d'autisme très complexe. Donc il viendra nous parler de son expérience. Nous aurons entre temps aussi des petites manifestations. Alors du 1er au 10 octobre, je vous invite à visiter l'exposition qui se déroulera au Homard Bleu, à la salle du Homard Bleu au centre de Marvejols, qui est une exposition qui s'appellera 15 ans après, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on avait filmé des jeunes qui étaient à l'IMPRO et on les a retrouvés 15 ans après et on les a fait témoigner sur le avant et le après. Donc ça sera une très belle exposition. Et puis, un film est encore en cours, mais j'espère qu'on pourra le visionner au mois de décembre sur les 70 ans du Clos d'Uny, avec tout un tas de témoignages sur l'histoire et le parcours du Clos d'Uny jusque-là. Et bien sûr, au mois de novembre, d'ici là, il y aura le nouveau film qui est produit par le pôle Travail Habitat et au sein duquel il y aura Christine Sauré, comme il y a eu La Louve, qui en a eu 10h10. Cette année, ce sera Commotion. Donc, on le visionnera également au cinéma. Quand on parle d'inclusion, ben voilà, ce sera au cinéma de Marvejols, Demande et d'ailleurs. Donc voilà, une rentrée très chargée pour les 70 ans du Clos.
L'inauguration des nouveaux locaux de la Direction Générale, qui retrouve d'ailleurs les racines, puisque c'est à Grèzes dont était parti et où on est revenu. Et je voudrais, en terminant, dire aux jeunes qui nous écoutent qu'il y a des perspectives d'avenir au Clos d'Uny, que ce soit dans le secteur médico-social ou le secteur sanitaire. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent avoir des chances de formation et d'avenir. Parce que contrairement à ce qui s'était passé pendant des années, où on refusait, où c'était difficile parce qu'il y avait trop de demandes pour revenir travailler au Clos, en ce moment,
il y a de la place.
Il y a des possibilités d'avenir. Et donc, les jeunes qui se cherchent peuvent avoir une réponse là aussi pour la réussite en venant au Clos d'Uny.
Eh ben, l'appel est passé, et puis effectivement, on boucle la boucle avec le retour de la direction sur le site de Grèzes. Jacques Blanc, donc président de l'association, Patrick Julien, son directeur général, Henri Christine, ex-travailleur, maintenant jeune retraité du Clos d'Uny, puis Anne Clémence, sa chargée de communication. Merci, un immense merci d'être venu partager avec nous cette formidable histoire de 70 ans. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le Clos d'Uny et son histoire, des événements commémoratifs sont organisés tout au long de l'année. N'hésitez pas à suivre les actualités de l'association sur leurs différents réseaux sociaux. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était Hashtag l'émission de 48FM en partenariat avec le Clos d'Uny, qui donne la parole aux personnes en situation de handicap. À très bientôt pour un nouveau numéro de Hashtag et bonne écoute sur 48FM.